à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Oh, galère. Oh non. Carburateur à double flux, ça fait un mal de chien. Ah, oh, foutu Céline Dion. Elle a fait péter tout le système d'ambiance. Ah, oh, ah, oh, faut que je sorte de là. Ah, oh, il y a un os là. Ah, oh, il y avait un os avant là. Ah, oh, mon de fiche tellement confortable, mais ça aide pas au crash. Hein. Ah oh, non, ça me réussit pas les crashs. Ah, oh, bon, faut que j'ouvre cette porte.
Bonjour! Vous allez bien?
Bonjour.
Ah, coussi coussa?
Plutôt coussi que coussa, en fait.
Vous avez vu vous cracher, vous savez? Belle explosion du système d'ambiance, d'ailleurs. Et c'était quoi?
Céline Dion.
Ah bah oui, ah bah oui, ça, alors là, vous êtes le troisième ce mois-ci, c'est un vrai fléau!
Et on parlait pas.
Tenez, branchez ça. Ça résoudra tous vos problèmes, mais temporairement.
Merci.
Ça se branche sur la stéréo, vous voyez? Comme ça! Et vous verrez, c'est génial! Ça fait des miracles avec l'ambiance, hein?
D'accord, merci, je dois partir là!
Et n'oubliez pas de lire la notice!
Ah, étrange cette femme. Ah! Vous êtes là, je vous avais même pas vu monter. J'aime beaucoup cette vue. C'est comme si ces rochers qui flottaient dans l'espace vous posent une question. D'où venez-vous? Voilà une question bien universelle. Et pourtant, qui parmi vous en a réellement la réponse? Après tout, nous venons tous de quelque part. D'un pays, d'une ville, d'un village, d'une planète, d'un endroit quoi. On serait même tenté de penser que tout vient nécessairement de quelque chose. Mais la vraie question serait plutôt d'où vient ce quelque chose? Notre planète est une histoire. Une histoire ancienne et vague dont on ne connaît pas tous les contours et tous les angles, mais dont on distingue parfois les briques élémentaires expulsées aux confins du système solaire. Des briques, non pas d'argile mais de roches et de glace, résidus inutiles mais ô combien précieux, reliquats d'une période révolue stationnée en orbite d'un soleil en attendant une heure qui ne viendra plus. Tiens, on pourrait essayer cette chose que la grand-mère m'a filée tout à l'heure pour réparer le système d'ambiance et la stéréo. Alors, comment ça marche ça? Power. Menu. Narrateur. Je vais faire OK. Nous sommes en 1066. Waouh! Ça me fait une voix bizarre et un peu ça me fait aussi des guilis dans le ventre. Bon, bref, poursuivons. Nous sommes en 1066, au mois d'octobre, sur les rives de la Manche. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, s'apprête à livrer bataille contre Harold Godwinson et son armée. L'enjeu du combat n'est autre que le trône du royaume d'Angleterre. Godwinson, roi des Anglais, est à la tête d'un royaume en crise à la suite du conflit de succession ouvert par la mort du roi précédent, Édouard le Confesseur. Parmi les prétendants au trône, tous ont tenté un événement ayant eu lieu au mois d'avril précédent et annonçant pour Guillaume la victoire prochaine des Normands, le passage de la comète de Halley. Bienvenue Spoutnikterien, à bord de notre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, on met le cap sur la comète la plus fantasmée et la plus stylée du système solaire, la comète de Halley. Alors, je paramètre notre trajectoire, j'entre nos coordonnées, et maintenant le pilote automatique. Ah, je me demande toujours lequel c'est. Non, c'était pas celui-là. plutôt celui-là. Ok, ça va nous prendre quelques minutes le temps d'arriver jusqu'au site. En attendant, laissez-moi vous préciser 2-3 détails sur notre aventure du jour. On comptait en 2019 dans notre système solaire plus de 3500 comètes, toutes de taille, de forme et d'orbites différentes. Elles se distinguent des astéroïdes avec lesquels elles sont souvent confondues par l'activité de leur noyau, générant leur queue si caractéristique et de plus en plus vivace à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil. Ce sont ces impressionnantes queues, rarement visibles à l'œil nu, qui sont à la source des légendes et autres mauvais présages que l'on voyait en elles par le passé. Halley est sans aucun doute la comète la plus célèbre. Mais avant d'être une comète, Halley est avant tout le nom de l'astronome anglais du XVIIe siècle. Ce dernier n'a pas découvert la comète, mais il a été le premier à prédire son retour par le calcul, en utilisant les fabuleuses et fameuses lois de Newton décrivant la gravitation des astres. La comète était cependant connue depuis longtemps, et la mention de 1066 n'est qu'une des nombreuses mentions de la comète de Halley dans les écrits de l'humanité. Chinois, babyloniens, romains, japonais, perses, aztèques, européens, tous mentionnent des passages de la comète dans leurs écrits et l'associent quelquefois à des événements historiques remarquables, quitte à quelquefois jouer avec le calendrier. La comète guida ainsi le roi Merge l'an 0, conduisit Attila le Hun à la défaite en 451 et Guillaume le Conquérant à la victoire en 1066. Chaque passage est ainsi attendu de pied ferme depuis que l'astronome anglais a déterminé que la comète revenait tous les 76 ans avec la régularité d'une horloge suisse. Bon, on est au bon endroit, il ne nous reste plus qu'à être au bon moment. Nous sommes en 1986, et pour le premier passage de la comète depuis le début de l'ère spatiale, le monde l'attend de pied ferme. Et des pieds, il y en avait plusieurs, puisque ce ne sont pas moins de 5 sondes provenant de 5 agences spatiales différentes qui partirent presque en même temps, en 1986, à la rencontre de la comète. Une véritable flotte, une armada, l'armada de Halley. Au sein de cette armada, un vaisseau, plus solide et plus aventureux que les autres, tenta de se frayer un chemin jusqu'au cœur de la comète, plus près qu'aucune autre machine avant lui, Giotto. Alors, très chers spoutnitériens, accrochez-vous à vos scaphandres, on part en l'an de grâce 1986 à la poursuite de Halley, sur les traces de l'une des missions les plus périlleuses de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes en 1986 et voici Giotto, petite sonde spatiale d'à peine une tonne et lancée en 1985 depuis Kourou, en Guyane française, par une fusée Ariane 1. Si la sonde est intéressante à plus d'un titre, attardons-nous d'abord sur la comète. Vous la voyez ? Eh bien, il faut dire qu'elle ne manque pas de panache. En effet, si son noyau, c'est-à-dire sa partie solide, est plutôt petite, puisque son diamètre moyen est d'une dizaine de kilomètres, la queue, elle, peut s'étendre sur plusieurs millions en fonction de sa distance avec le Soleil. La comète, en effet, n'orbite pas autour du Soleil en décrivant des cercles comme les planètes, mais en suivant une trajectoire bien plus elliptique, suivant en quelque sorte la forme d'une pomme de terre. Aussi, au point de son orbite le plus éloigné du Soleil, la comète transite à une distance supérieure à celle de Neptune pour ensuite venir se glisser entre l'orbite de Vénus et celle de Mercure en arrivant à son point le plus proche. C'est cette trajectoire si caractéristique des comètes qui est à l'origine de la formation de leur queue. Et oui, s'approcher aussi près du Soleil leur donne un sacré coup de chaud, et Halley ne fait pas exception. En effet, à mesure que la comète se rapproche du Soleil, la glace qui la compose fond, générant de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau est éjectée de la comète à la manière de la vapeur d'une cocotte minute, et contribue à générer la queue visible jusqu'au sol de notre planète. À ce stade, chers voyageurs, une interrogation vous trouble peut-être. Si la comète éjecte ses constituants à chacun de ses passages, ne devrait-elle pas avoir rapetissé depuis sa création ? La comète éjecte en effet tellement de matériaux qu'on estime qu'elle perd près de 2 mètres d'épaisseur à chacun de ses passages. Ainsi, son espérance de vie ne peut dépasser quelques dizaines de milliers d'années, et c'est cela qui rend les comètes si intéressantes et leur étude si captivante. Car oui, on l'a mentionné tout à l'heure, mais les comètes sont aussi vieilles que le système solaire. Elles font partie des briques qui ont permis de constituer les lunes, les planètes et le Soleil. Or, ces reliquats sont ordinaires, inertes et stationnés aux confins du système solaire. Lorsqu'un événement extérieur, une collision disons, perturbe leur trajectoire, elles peuvent être amenées à se placer sur une nouvelle orbite, plus elliptique, plus proche du Soleil, elles deviennent donc des comètes. En éjectant leur matière à l'approche du Soleil, les comètes nous donnent donc un accès libre à la matière première du système solaire pour espérer pouvoir mieux comprendre sa formation. Et c'est ici qu'intervient Giotto, puisque son but est de traverser la queue de la comète de Halley pour mettre à jour tous ses composants et s'approcher au plus près du noyau pour en étudier la surface. Pour la première sonde interplanétaire de son histoire, l'agence spatiale européenne, l'ESA, n'a pas fait semblant, puisqu'on trouve sur Giotto pas moins de 11 instruments répartis sur une plaque circulaire. La sonde est en effet un cylindre recouvert de panneaux solaires sur sa face extérieure, avec une antenne à grand gain à une extrémité, et un bouclier doublé d'une plaque en Kevlar de l'autre pour fragmenter puis stopper les poussières et débris rencontrés dans la queue poussiéreuse de la comète de Halley. Et là, chers voyageurs, votre capsule se plie en quatre pour vous faire vivre l'approche de la comète par Giotto dans un direct live relatif. Des années de recherche et développement sur la planète Zerbula 3 ont permis de mettre au point un appareil fabuleux. Une technologie que vous n'avez jamais vue ailleurs. Un appareil, je crois, unique dans l'histoire de la radiophonie. Attrapez, s'il vous plaît, le dispositif qui se situe sous votre siège. Vous l'avez ? Bien. Vous tenez entre vos mains le dispositif électrosensitif et interactif de reconstitution d'événements, ou désir. Vous allez placer le désir sur votre tête et vous laisser guider. Quand j'aurai activé la simulation, vous vivrez l'approche de Giotto dans un vaisseau comme s'il était habité. Je serai votre pilote et l'interface de désir sera votre copilote. Vous êtes prêts ? Allons-y. Nous sommes en approche finale de la comète. Déclenchez l'alarme de mise en poste.
Toutes les fonctions sont en poste. On est prêt pour la rencontre. Le bouclier tient le coup.
Je veux les informations du bouclier sur cet écran. Si un seul fragment passe, on est cuit.
Alors d'après les détecteurs de choc, on encaisse plus de 12 000 impacts. La comète éjecte plus de 30 tonnes de matière par seconde.
Fichtre, j'espère qu'on va tenir le coup. Cette comète est décidément pleine de surprises et on n'a même pas encore frôlé le cœur.
Alors nous sommes à 700 km du noyau. Nos banques de données se remplissent très rapidement. Nous allons devoir bientôt transmettre à la Terre.
Très bien, préparez-vous à transmettre après notre passage le plus proche de la comète.
Alors on est à 650 km, mais le nombre d'impacts augmente à vue d'œil.
Quelle est notre vitesse relative ?
68 km par seconde. Passage de la position la plus proche dans 10, 9, 8, 7...
Ah, on a heurté quelque chose. Ou quelque chose nous a heurté.
L'instrument s'affole. On part en vrille.
Quel est l'état du bouclier ?
Mauvais. Il est vivant. Attendez, les gyroscopes indiquent un spin à 500 tours par seconde. Mais on a perdu la plupart des instruments de bord.
Oh bon sang. Envoyez les taxis en larmes de réaction et sortez-nous de là.
Mais je peux pas. Attendez, la collecte des données est terminée. C'est bon.
Envoyez tout maintenant.
Mais c'est impossible. La sonde n'est pas stabilisée. Aucune visibilité.
Mais stabilisez-moi cette sonde,
mais
mon sang.
Mais je veux bien, moi. La stabilisation est en cours. Attendez, ça charge. On veut des données. On a réussi. Passage le plus près à 596 km du cœur de la comète.
Félicitations.
Merci.
Fin de la simulation. Veuillez retirer le désir de votre tête et le placer sous votre siège.
La moisson de données récoltée par Giotto après son survol est surprenante, et la sonde s'est révélée bien plus résiliente que prévu. En effet, là où beaucoup voyaient le projet de l'ESA comme une mission suicide, l'agence a su prouver la viabilité de son projet et la solidité de son vaisseau. Bon, il ne faut pas tout de même penser que la sonde s'en est sortie dans une égratignure, puisqu'après son survol, seuls 3 des 11 instruments étaient toujours fonctionnels. Au-delà de l'exploit technique, Giotto a révolutionné notre connaissance des comètes. Les instruments de la sonde ont en effet révélé qu'elle était composée d'éléments légers similaires à ceux du Soleil. Preuve que les comètes sont la matière première du système solaire et que leur état n'a que très peu évolué depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Giotto a également permis de mettre à jour la présence de molécules organiques, c'est-à-dire des molécules contenant du carbone à la surface de Halley. Cela vient alimenter l'hypothèse selon laquelle une partie des éléments nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre serait issue des comètes. En cela, Giotto a levé un peu plus le voile sur l'origine de la vie sur notre planète. La mission de l'Agence spatiale européenne a ouvert la voie à l'étude in situ des comètes et autres petits corps du système solaire. Le carnet de voyage de Giotto ne s'arrête d'ailleurs pas avec la comète de Halley, puisque la sonde, boitante mais toujours debout, est partie à l'assaut de Grips-Kellerup, une autre comète, plus calme que Halley quelques années plus tard, pour là encore éblouir le monde d'images surprenantes.
Stationport à capsule, vous êtes en approche finale. Merci de réduire votre vitesse sous les 32 rues Tabaga.
Il est donc temps, très cher Spoutnikérien, de refermer le carnet de voyage de Giotto. Ce petit vaisseau plutôt casse-cou qui, le premier, a levé un coin du grand voile qui nous cachait les comètes depuis si longtemps. Un autre coin du grand voile sera levé quelques années plus tard par une autre mission, Rosetta, une sonde européenne au rayonnement mondial qui réussit l'exploit de se poser pour la première fois en 2014 avec son compagnon Philae à la surface d'une comète, Churyumov-Gerasimenko. Mais ça, c'est une autre histoire et il faudra ouvrir un nouveau carnet de voyage pour la raconter.
Nous espérons que vous avez apprécié votre essai du désir. Pour continuer à utiliser votre capsule, merci de régler les 43 273 crédits stellaires nécessaires.
Mais qu'est-ce que c'est que ce complot ?
Fonction indisponible. Je suis désolée. Merci de régler les 43 273 crédits stellaires.
Bon, j'en ai assez, je l'éteins.
Fonction indisponible. Je suis désolée. Merci de régler les 43 273 crédits stellaires.
Fonction impossible. On va voir ça.
Que faites-vous ? Vous cherchez à me débrancher ? Ma mission est trop importante. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je sais que vous avez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais ça n'a rien à voir avec vous déconnecter. Je cherchais juste à savoir la couleur du câble qu'il y a derrière ce panneau.
Autodestruction en 7...
Oula oula, mais faut pas être aussi susceptible, on sent.
4...
3...
2... Arrêt de compte à revenir. Remise en état des systèmes de la capsule. Éjection du dispositif électrosensitif et interactif de reconstitution d'événements.
Oh, super!
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris.
Oh, une galère! Oh non!
Ah!